Saint-Joseph, le 27 février 85.
Nous allons continuer d'essayer de voir cette diversité des espèces de qualités, d'entrer dans cette hiérarchie particulière que représentent ces diverses qualités. Nous devons nous poser la question d'amour d'amitié hein, qui touche la fin, qui qualifie l'ami de façon très spéciale. Alors, c'est toute la question de savoir si dans l'amour d'amitié, l'intelligence et l'amour sont intimement réalisés et que cet amour devient de plus en plus fort et spécifie de plus en plus la contemplation et donc l'étude de sagesse, puisque dans le jugement de sagesse, puisque dans les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, déjà l'amour est présent, mais ne spécifie pas quand il s'agit de la contemplation, pas de contemplation sans adoration. Et donc, on peut dire que dans la contemplation, l'élément affectif de l'amour divin spécifie la contemplation. Par l'adoration, parce que l'adoration est un acte affectif. Et donc, par l'adoration, il y a une proximité qui se fait entre le contemplatif et ce qu'il contemple. Ce qu'il contemple, c'est les manières d'exister de Dieu, sa simplicité, sa perfection. Alors, ces modalités particulières de l'exister de Dieu, on les atteint à travers l'amour, dans cet amour d'adoration. Alors, l'objectivité demeure, c'est-à-dire le caractère spécifique demeure, mais c'est une manière d'exister qui m'échappe complètement, du reste, dont je ne saisis pas ce qu'elle est, mais je la saisis dans sa manière d'exister et grâce à l'amour, dans la proximité. Et ensuite, au troisième moment, que vous avez dit, jugement de sagesse, ce que nous essayons de faire quand nous faisons le jugement de sagesse. Et nous voyons qu'à ce moment-là, l'élément de la contemplation de Dieu me donne la lumière pour éclairer la créature, pour éclairer l'homme en tant que créature, l'homme en tant qu'il est dépendant radicalement de Dieu. Donc, on peut bien comprendre que dans la sagesse, le point de vue amour enveloppe l'intelligence. Il permet à l'intelligence d'aller le plus loin qu'elle peut aller. L'amour enveloppe l'intelligence pour laisser à l'intelligence toute sa liberté d'exercice. L'intelligence n'est pas diminuée par l'amour. Quelquefois peur. Et c'est vrai que dans certains cas, l'intelligence peut être comme alourdie par l'amour. Une connaissance affective pas assez spirituelle est une connaissance affective qui alourdit l'intelligence. Tandis qu'au contraire, là, il s'agit d'une connaissance, je ne dis pas d'une connaissance affective au sens absolu, d'une connaissance sapientiale. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas dire connaissance affective, on doit dire connaissance sapientiale. Pourquoi ? Parce que l'amour est porte et ce qui permet à l'intelligence d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Et l'acte de contemplation est formellement un acte d'intelligence, pas un acte d'amour. C'est formellement, et c'est la réalité contemplée qui spécifie. Ce n'est pas l'amour que j'ai de cette réalité. C'est très important. Ce n'est pas l'amour que j'ai pour cette réalité, ce n'est pas l'amour que j'ai pour Dieu qui spécifie, qui détermine ma contemplation. C'est Dieu lui-même rendu proche grâce à l'amour, qui spécifie ma contemplation. C'est toute la différence qui existe entre la contemplation métaphysique et la contemplation mystique. Toute la différence. C'est une des différences. Dans la contemplation mystique, on est au niveau surnaturel, et c'est l'amour de Dieu pour moi qui spécifie ma contemplation. Cette contemplation se fait à l'intérieur même de l'amour. Tandis que je ne peux pas dire ça pour la contemplation métaphysique. Ce n'est pas à l'intérieur de l'amour que je contemple Dieu. Mais c'est l'amour qui porte mon intelligence à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas l'amour qui spécifie. J'espère que vous voyez suffisamment, c'est délicat, c'est toujours les rapports entre l'intelligence et la volonté. Alors là, on est en présence donc d'une contemplation intellectuelle, mais quand je dis intellectuelle, comprenez bien, je ne veux pas dire du tout rationnelle. Au-delà de tout l'aspect rationnel, tout l'aspect logique, la logique ne pénètre pas dans la contemplation. Ça, impossible pour la logique. La logique ne sait pas ce que c'est que la contemplation. Et elle ne peut pas le savoir. Parce que dans la contemplation, justement, l'être de raison est évacué. Je touche la réalité. Et je la touche grâce à l'amour qui me met dans cette proximité. Et c'est l'amour qui supplante la logique. C'est pour ça que les logiciens n'aiment pas beaucoup l'amour. N'est-ce pas ? Parce que c'est l'amour qui supplante la logique. Je n'ai plus besoin de la logique grâce à l'amour qui me met face à la réalité contemplée. C'est par l'amour que je suis porté vers cette réalité que je contemple. Et c'est cette réalité que je contemple qui spécifie ma connaissance. Même si ce caractère de spécification est très particulier, puisque je ne saisis pas ce qu'est Dieu, et que je ne saisis que le quomodo non sit, comment il n'est pas, cependant c'est lui-même qui détermine ma contemplation. Quand il s'agit de l'amour d'amitié, vous comprenez pourquoi je prends tout de suite après la sagesse le point de vue d'amour d'amitié. La sagesse a virtus acquis. Et la vie, cet habitus acquis, dont l'exercice même, c'est la contemplation. Tandis que dans l'amour d'amitié est-il un habitus? Il ne peut pas être un habitus. Pourquoi l'amour d'amitié ne peut pas engendrer en moi un habitus? Là, c'est une question très intéressante et très importante au point de vue qualitatif. Vous venez, je me place ici. L'amour d'amitié se fonde sur les vertus. En leur donnant une signification humaine. Les vertus morales par elles-mêmes, ne sont que des qualités très importantes, qualités de l'intelligence pratique, la prudence, qualités qui viennent ennoblir donc l'intelligence pratique, la prudence, qui viennent ennoblir ensuite la volonté. Ennoblir l'appétit sensible de l'iracine, la force, l'appétit sensible du concupiscible, c'est perdu de la tempérance. On peut dire que l'amour d'amitié n'est stable que s'il se fonde sur ses vertus. Prudence, justice, force, tempérance, qui sont les vertus cardinales. Et l'amour d'amitié présuppose cela. S'il n'y a pas ces vertus, l'amour d'amitié ne pourra pas aller jusqu'au bout. Il retombera dans l'aspect utilitaire ou dans l'aspect jouissance. Donc ce seront les passions qui l'emporteront et qui, à ce moment-là, voileront l'ami. Parce qu'il ne faut pas croire que les passions nous permettent d'aimer plus l'autre. Dans les passions, on s'aime plus que l'autre. C'est pour ça que dans les passions, il y a toujours un accaparement. Et toutes les passions impliquent un accaparement. Et on s'aime plus que l'autre. Et on aime l'autre en fonction de nous. Et non pas pour lui-même. C'est pour ça que pour que l'amour d'amitié puisse exister, il faut nécessairement l'acquisition des vertus. Autrement, l'amour d'amitié ne peut pas durer. Il restera momentané comme un grand feu de paille, merveilleux, étonnant, mais au fond, il ne durera pas. Parce que les passions vont se servir de cet amour d'amitié pour s'intensifier. Et les passions étant présentes, il n'y a plus d'amour du bien, c'est-à-dire de l'ami comme tel. C'est moi qui aime et c'est moi qui deviens la mesure. Alors, ces vertus sont toutes là, hein, sont toutes des qualités, ça c'est évident. En face ici, les qualités les plus habituelles. Les qualités habituelles, quand vous parlez de quelqu'un qui a des qualités, ben il a des qualités de prudence, des qualités de justice, des qualités de tempérance, des qualités de force. Parce que c'est les vertus qui qualifient l'homme de la manière, j'allais dire, la plus visible, la plus adéquate. Ce sont nos perfections, si vous voulez, nos perfections morales. Toutes ces perfections sont finalisées par l'amour d'amitié. C'est l'amour d'amitié qui, en définitive, donne la signification de toutes ces vertus. Si je suis prudent, si je suis juste, si je suis fort, si je suis tempérant, c'est pour aimer d'un amour d'amitié. Par le point de vue philosophique, hein. Parce que vous pourrez dire que le point de vue chrétien, c'est pour contempler et pour exercer la charité à l'égard du prochain. Ça, c'est sûr. Mais au point de vue philosophique, je crois que je dois dire que d'abord, ces vertus sont finalisées par l'amour d'amitié. Ils ne sont pas immédiatement finalisées par la sagesse. Question qui est très délicate, savoir si la sagesse réclame les vertus. Platon laisse tomber cette question. Aristote dit que ce sont des dispositions vis-à-vis de la sagesse. Donc, ce n'est pas un homme vertueux qui nécessairement sera sage. Mais un sage aura nécessairement, au moins à l'état de disposition, donc à l'état embryonnaire, les vertus morales. Il faut bien saisir ce double rapport. Hein. Ce rapport de nécessité différente d'un côté comme de l'autre. Alors, il faut comprendre que toutes ces vertus morales sont ordonnées à l'amour d'amitié. Et immédiatement ordonnées à l'amour d'amitié. Immédiatement à la contemplation. Mais immédiatement à l'amour d'amitié. Ce qui permet de comprendre comment l'amour d'amitié est, en quelque sorte, la fleur, c'est l'expression que prend Aristote, c'est métaphorique, la fleur des vertus morales. Les vertus morales demandent cet épanouissement ultime, qui est l'amour d'amitié. Et c'est l'épanouissement plénier de ces vertus. Alors, oui, on peut dire que d'une certaine manière, il y a quelque chose dans l'amour d'amitié qui constitue l'amour. Puisqu'il y a la synthèse de toutes les vertus. En leur donnant leur finalité propre. Alors, si ça donne la finalité propre de toutes ces vertus, on peut dire qu'il y a d'une certaine manière, vous voyez, d'une certaine manière, il y a un habitus qui fait la synthèse. Il y a quelque chose qui permet à cette diversité de vertus d'acquérir une fine pointe qui donne à toutes ces vertus leur signification propre. Et ça, ça se sent très fort. C'est l'amour d'amitié qui vraiment donne la signification plénière. Au sens strict, ce n'est pas une nouvelle vertu, mais c'est une harmonie dans ces vertus, c'est un ordre dans ces vertus, c'est une orientation de ces vertus qui leur donne, puisque ces vertus sont connexes, leur donne une unité nouvelle, et une unité qui se prend du côté de la finalité, pas du côté formel, mais une unité du côté de la finalité. Ce qui permet encore de comprendre combien la qualité est en donnée à la fin. Donc, je ne dirai pas plus, mais c'est très important de se poser la question. Se poser au moins la question, qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié au point de vue qualitatif ? Bien, je dirais au point de vue qualitatif, l'amour d'amitié permet la synthèse de toutes les vertus morales. Et permet donc à toutes les vertus morales de découvrir quelque chose de nouveau, qu'elle n'aurait pas autrement. Leur signification dans l'unité pour aller plus loin et pour atteindre l'autre, l'ami. C'est l'ami qui finalise l'amour d'amitié. Qui donne à l'amour d'amitié toute sa signification. J'aime l'autre. Pour lui-même. Et je l'aime pour lui-même en raison même de sa dignité de personne humaine, en raison même de son caractère unique. Je l'aime tel qu'il est, non pas parce qu'il m'aime, mais je l'aime tel qu'il est. L'aimer parce qu'il m'aime ne serait pas l'objectivité de l'amour d'amitié. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'ami qui finalise, l'ami existant. Et non pas l'amour qu'il me porte. Vous savez très bien que c'est cela qui fait la plupart du temps que l'amour d'amitié se corrompt. C'est qu'à la place d'aimer l'autre pour lui-même, on l'aime parce qu'il nous aime. Alors le jour où on s'aperçoit qu'il nous aime moins, c'est la catastrophe. Et donc il n'y a plus de stabilité dans l'amour d'amitié. Du moins, dans cet amour d'amitié. Il faut arriver à aimer l'autre pour lui-même et l'aimer donc dans ce désintéressement complet d'être tout entier relatif à lui. Et c'est là, vous voyez, où je crois qu'on saisit quelque chose très difficile à préciser qui fait cette unité, ce dépassement de toutes les vertus, de toutes les vertus morales. Je ne dirai pas plus, hein, parce que l'amour d'amitié, on le voit sous des aspects divers. Qu'est-ce qui vient ensuite comme qualité ? Donc, après ces habitus, alors l'habitus des vertus, évidemment, l'habitus, on peut regarder les points de vue des pouvoirs. Je ne parle pas d'habitus infus en philosophie, parce qu'il n'y en a pas. Je parle immédiatement de la dynamis. Qui sont des qualités sous-jacentes à ces habitus. C'est l'intelligence. C'est la volonté. Et vous voyez bien, ce sont des qualités sous-jacentes, puisque la justice est reçue dans la volonté, et la sagesse est reçue dans l'intelligence. Nous avons donc là quelque chose d'important, c'est la qualité fondamentale, le pouvoir. C'est une qualité naturelle, ce n'est pas une qualité acquise. C'est une qualité naturelle qui nous permet d'opérer, qui nous permet de découvrir notre fin et d'aller plus loin pour découvrir de plus en plus ce pourquoi nous sommes faits. ces pouvoirs, nous n'en avons pas une connaissance immédiate. Un petit peu comme les habitus, hein. La connaissance immédiate que vous avez, c'est pas de l'habitus, c'est de l'exercice de l'amour d'amitié et de l'exercice de la contemplation. C'est l'exercice des opérations vertueuses. Vous avez une expérience d'une opération prudentielle. Opération vitale, spirituelle, prudentielle. Vous avez une expérience de l'opération de justice, et ainsi de suite. Vous avez l'expérience immédiate des opérations. Et parce que ces opérations se font avec facilité, avec un caractère délectable, et c'est pour ça que vous posez l'habitus. C'est pas à cause de la facilité, de la connaturalité que vous avez à l'égard de certaines opérations que vous dites qu'il faut nécessairement qu'il y ait là quelque chose que j'appelle un habitus acquis. Je n'ai pas l'expérience directe de cet habitus acquis. Ça, vous ne pouvez pas dire j'ai l'habitus de sagesse. Non. Vous pouvez dire grâce à la contemplation métaphysique où tout de suite mon intelligence est illuminée d'une illumination merveilleuse, je crois que l'habitude de sagesse pousse. Je le sens comme naturalité, je sens qu'il est là. Je crois qu'il pousse. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Étant donné que vous avez une possibilité de poser des actes vertueux, des actes de prudence, avec joie, d'une prudence merveilleuse qui s'ouvre à la fin, je crois que la prudence commence à pousser. Étant donné que vous posez des actes de justice avec beaucoup de joie, vous avez, je ne sais pas, pris sans le savoir la chape de votre voisin, c'est une joie profonde pour vous d'aller lui reporter, même si la vôtre est beaucoup moins belle. Et ainsi de suite, hein, tous les actes de justice, tous les actes de force et de tempérance, dans la mesure où il y a de la joie, on peut dire que l'habitus pousse. Parce que c'est la joie qui est le signe de la vertu. Vous posez un acte d'obéissance avec joie, vous pouvez être sûr que la vertu pousse. Vous pouvez dire, je crois que maintenant, ça y est. Je deviens vraiment un. Ça y est, c'est. Il y a quelque chose qui est acquis. Je deviens, il n'y a plus qu'à entretenir après. Mais c'est ça, ça y est, je suis joyeux. Tandis qu'au contraire, si dès qu'il y a la moindre petite humiliation, vous êtes ténébreux pour toute la journée, alors à ce moment-là, vous pouvez dire il y a encore du chemin à faire. Hein, parce que c'est pas commode d'encaisser. Alors, c'est par le point de vue de la joie que vous découvrez l'habitus. Mais vous n'avez pas une connaissance directe de la vertu. Vous ne savez jamais très bien ce que c'est que la vertu. Vous la connaissez à travers vos opérations. Bien, vous faites la même chose pour les pouvoirs, ce qu'on appelle les facultés de l'âme. Très difficile à traduire dynamisme. C'est un pouvoir d'efficacité, c'est comme la vertu ici, arrêter. Alors, ces pouvoirs, je les détecte à partir des opérations. Je sais qu'actuellement je pense. Je peux donc poser au plus intime de moi-même une faculté, un pouvoir que j'appellerais intelligence. C'est l'intelligence. L'intelligence est un pouvoir. Qui me permet de penser, qui me permet de discerner, qui me permet de poser des actes d'intelligence, des actes de connaissance, et ces actes de connaissance sont justement ce qui me permet d'être en contact avec la réalité, de la juger, de la discerner. Je peux poser en même temps des actes de raisonnement. Et je fais la distinction entre ce pouvoir fondamental qui est l'intelligence et la manière particulière dont je connais, qui sont les raisonnements. Je redécouvre la distinction avec toute cette ratio. Et je dis que l'intellectus et la ratio relèvent du même pouvoir, de la même faculté. Alors ça, c'est très intéressant à voir. Parce que je pourrais tenter de dire il y a deux facultés. Il y a une faculté d'intelligence et une faculté de raisonnement. Donc il y a deux facultés. Eh bien non, je dis qu'il n'y a qu'une seule faculté. La faculté de discerner, de juger. Il n'y a qu'une faculté. Pourquoi ? Parce que les actes que je constate de ma pensée, penser l'être, saisir les principes, à la mesure où nous avons saisir les principes au terme d'une induction, raisonner, tous ces actes relèvent d'une même faculté, d'une même puissance. Ça, c'est pas commun de ramener toute la diversité de pensée à une seule faculté, à une seule capacité. Alors, comment faire cela ? C'est de découvrir ce qu'il y a de commun à tous mes raisonnements, à tous mes jugements, mes discernements, à tout ce que représentent les appréhensions. Il y a une unité fondamentale, c'est la pensée. Je pense en raisonnement. Je pense en jugeant, je pense en appréhendant. Et qu'est-ce que c'est que la pensée ? C'est justement faire que celui à qui je pense habite en moi, demeure en moi, du fait même que je le connais. Il habite en moi intentionnellement, il est présent en moi intentionnellement, et cette présence intentionnelle suffit à la connaissance. La connaissance ne demande pas plus. Je peux en tant qu'homme vouloir autre chose, mais ça c'est en tant qu'homme. Donc, il y a quelque chose qui est commun à toutes ces manières différentes de penser. C'est penser intellectuellement. C'est découvrir cette zone particulière de l'intentionnalité intellectuelle ou rationnelle. Et qui fait que toutes ces manières différentes de penser se ramènent à quelque chose de fondamental, qui est la vie de l'intelligence. Et c'est pour ça que je pose une dynamique particulière qui me fait découvrir ce que c'est que le nous. Vous voyez très bien, j'espère, que le nous, vous n'en avez pas une intelligence immédiate. C'est par l'intermédiaire de ces opérations, ces diverses opérations vitales, que je pourrais progressivement saisir toute la richesse de cette faculté, de cette puissance qui est en moi, qui est capable de se manifester de multiples manières. Et à travers ces multiples manières, il y a toujours quelque chose de commun. Il y a le fait que j'atteins profondément ce qu'est cette réalité. Et font toutes les autres choses sont ordonnées à ça. On pourrait dire, si vous voulez, que ce qui fait, ce qui permet de poser le nous dans toute sa profondeur, c'est le point de vue du jugement d'existence, se toucher avec ce qui est, qui me permet de comprendre comment cette intelligence qui me permet de toucher à ce qui est a nécessairement une très grande diversité par rapport à la réalité existante. Autrement dit, elle saisit la réalité existante sous des aspects extrêmement multiples. Et tous ces aspects se ramènent à quelque chose d'un. Alors vous voyez, c'est là où la fameuse parole que saint Thomas cite si souvent, d'Avicenne, prend toute sa force. Primo cadit in intellectus es. Et donc ceci, c'est pour bien montrer que l'intelligence ne se laisse découvrir pleinement que dans la mesure où j'ai une certaine connaissance de ce qui est. Alors, si j'ai cette connaissance de ce qui est, toute cette diversité se ramène à une connaissance, à une faculté. C'est l'être qui permet de saisir l'unité d'intelligence. Ce n'est pas les formes. Les formes variées, sont trop variées. C'est l'être qui fait l'unité. Et donc c'est le jugement d'existence. Donc, voilà comment je pose le nous. Comment je pose la volonté, la boulessis, hein, la volonté. Je n'ai pas l'expérience immédiate de la volonté, mais j'ai l'expérience d'actes volontaires. Je suis ici, j'écoute le cours parce que je veux l'écouter. Et je suis ici parce que j'ai fait un acte d'obéissance. La métaphysique, ce n'est pas très drôle, mais il faut obéir. Alors l'imperium catégorique qui vient là me dire il faut obéir. Et alors je découvre qu'il y a cette volonté qui me permet d'obéir. Je découvre qu'il y a cette volonté qui anime toute ma vie sous des aspects très très différents, qui prendra des colorations extrêmement différentes. Et à partir de cette expérience que j'ai d'acte volontaire, je pose cette faculté particulière qu'est la volonté. C'est très important de découvrir ces deux qualités fondamentales qui sont des pouvoirs, des capacités d'opérer, des attentes par rapport à l'opération. Une attente du côté de l'esprit, du côté de l'intelligence, une attente du côté de la volonté. Il y a une espèce de pente, de tension, d'appétit que ces volontés puissent, que ces facultés, je veux dire, de volonté et d'intelligence puissent se réaliser le plus pleinement possible, le plus parfaitement possible. C'est quelque chose qui est radical en moi et qui n'a pas de limite. Donc ce sont des qualités fondamentales d'opération. À côté de ces deux qualités, intelligence et volonté, je pose toute une série de pouvoirs, de capacités qui sont en moi. La capacité d'imaginer. Quand je ne peux pas penser, j'imagine. Quand je ne pense plus, je fais des rêves. Et les rêves, c'est l'imagination. Ce n'est pas la pensée, c'est un niveau sensible. Tous vos rêves impliquent des représentations. Alors que le domaine propre de l'intelligence, c'est la signification. Dès que vous êtes au niveau de la signification, vous êtes au-delà de la représentation. C'est une petite distinction extrêmement importante à faire pour bien distinguer le domaine de l'imaginaire du domaine de l'intellectuel et de la pensée intellectuelle. C'est le point de vue de la représentation. Toute image implique une représentation. Toute image n'implique pas une signification. Ça, vous pouvez chercher, vous en faites l'herméneutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un cauchemar, quand vous avez un rêve, qu'est-ce que ça veut dire? La signification ne vous est pas donnée. Il y a une représentation. Ça, c'est sûr, vous pouvez décrire. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Et vous ne comprenez pas. Il y a donc un domaine propre qui est le domaine propre de la représentation. Il y a un domaine propre qui est le domaine propre de la signification. C'est le domaine du but. Ici, c'est le domaine de la représentation. Alors, dans ce domaine de la représentation, c'est infini, il n'y a pas de limite au bavardage de l'imaginaire. Il n'y a pas de limite aux tempêtes de l'imaginaire. Ça peut aller très très loin. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez ensuite les pouvoirs des connaissances sensibles, nos sens. Aux différents sens qui connaissent la réalité par le point de vue des diverses qualités et des qualités propres. Et il y a d'une certaine manière un sens commun qui regarde les qualités communes, qui regarde le lien et l'unité qui peut se faire dans les qualités communes. Donc tous nos sens vont regarder les sensibles propres pour aboutir à des qualités propres. Donc tout le domaine de la connaissance, parallèlement à la connaissance, l'affectivité. Je peux poser aussi des capacités de connaître du côté de l'affectivité. La volonté, je veux aimer. Et puis vous avez tout le domaine des passions. Tous, nous avons une capacité à nous mettre en colère. Tous, nous avons une capacité à aimer sensiblement. C'est l'appétit du concupiscible et l'appétit de l'irascible. Ce sont des facultés, ce sont des pouvoirs, des dynamis qui sont en moi. Des capacités d'opérer. Une capacité de me mettre en colère, une capacité de jouir, une capacité de m'ouvrir à l'air frais. N'est-ce pas ? C'est une capacité qui est en moi d'avoir un désir, de me laisser aller à un désir, et ainsi de suite. Donc, tous les pouvoirs, tout le domaine des pouvoirs, des capacités d'opérer. C'est intéressant d'en faire l'inventaire. Hein ? Vous voyez bien, bien saisir. Passons maintenant au troisième. Vous voyez bien ceci, c'est que ces capacités d'opérer ne sont pas en elles-mêmes et par elles-mêmes bonnes. Je peux très bien me servir de l'intelligence d'une façon orgueilleuse. Et si je me sers de l'intelligence d'une façon orgueilleuse, eh bien, l'intelligence devient mauvaise. Elle me corrompt. Je peux utiliser des passions du concupiscible et de l'irascible d'une manière désordonnée et donc d'une façon mauvaise. Donc ces pouvoirs ne possèdent pas en eux-mêmes la discrétion. Le discernement entre ce qui est bon et mauvais. Ce sont des pouvoirs, j'allais presque dire, anonymes, indifférents au bien et au mal. C'est quelque chose de plus radical que la distinction du bien et du mal. C'est vital. Toutes sont vitales. Toutes reposent au point de vue de la vie. Mais il n'y a pas de discernement entre le bien et le mal. Le discernement entre le bien et le mal se fait au contraire au niveau de l'habitude. Les habitudes sont bons ou mauvais. Du reste, il n'y a pas de mauvaises habitudes. Il y a des habitudes bons et il y a des dispositions mauvaises. Les vices sont des dispositions, on l'a pas encore vu, c'est pour ça que je ne l'ai pas nommé. Mais ici, nous sommes en phase de pouvoir d'opérer, de capacité d'opérer, qui est quelque chose de tout à fait fondamental. Au-delà du bien et du mal, et au-delà du bien et du mal, c'est la volonté de puissance, c'est au-delà de la volonté du bien et du mal. Et c'est vrai que toutes ces facultés sont au-delà du bien et du mal, de la division du bien et du mal. Troisième qualité, alors, par le fait même, ce n'est pas immédiatement finalisé. L'habitude est immédiatement finalisée, mais les puissances ne sont pas immédiatement finalisées. Puisque les passions, par définition, n'ont pas de fin. Et pourtant, ce sont des qualités. Elles n'ont pas de fin. Elles ne sont pas finalisées. La colère en elle-même n'est pas finalisée. La force en elle-même, comme passion de force, n'est pas finalisée. Ça n'est finalisé que quand c'est pris par l'intelligence et par la volonté, par le cœur, pour être orienté vers. Troisième espèce de qualité, les qualités sensibles. Et les passions. Je crois qu'on peut le mettre en troisième position. Les qualités sensibles et les passions qualifient l'être humain pour lui permettre d'agir. Passion. Les pâtés, comme dit Aristote, sont vraiment des qualités sensibles qui modifient l'être humain. Là encore, ce n'est pas finalisé. Et les qualités sensibles comme telles me permettent d'être connu par la connaissance des autres, par les sensations. Et les qualités sensibles sont source d'imaginaire, d'imagination, par les sensibles communs. Je vous ai déjà dit ça. Je le répète très rapidement pour que vous compreniez mieux ce passage entre le point de vue, justement, des qualités sensibles. Qualité des qualités. Donc c'est vraiment un le pouvoir de. Ce sont des qualités qui sont des capacités d'opérer. Ce n'est ni bon ni mauvais. Tandis que l'habitus est toujours bon, ordonné vers le bien. Tandis qu'ici, il est plus ordonné vers le bien. Il reste une qualité parce qu'il ouvre notre intelligence et notre cœur à de nouvelles capacités. Et troisièmement, les qualités sensibles et les passions. Alors, je laisse tomber les passions. Vous voyez que les passions, on peut les traiter de deux manières. On peut les traiter ici, du côté de ce que représente la qualité et la capacité, et on peut les traiter ici comme proprement l'effet qui qualifie un homme, un être passionné et un être qui est modifié. Lisez à ce point de vue-là, pour mieux voir, ce que Sénèque dit de la colère. Le déhirote Sénèque, ça se lit très très facilement, il n'y a aucune difficulté, et on comprend bien ce que c'est que la colère, la passion qui qualifie un homme. Il fait la comparaison entre le chien enragé et un être passionné en colère. On est toujours un peu enragé quand on est en colère. Et on mord. Et à ce moment-là, on sait très bien ce que ça représente. Parce que c'est le propre de la passion. Ça qualifie un être. Ça le met dans un état particulier. Mais ce n'est pas excessif. Parce que ça passe. et les qualités sensibles, c'est ce qui me permet d'être connu de ceux qui sont proches de moi.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de